Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal d'Hugues Sérapion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission préenregistrée, mais selon la formule consacrée, vos messages seront toujours les bienvenus. Les rapports hommes-femmes, les rapports humains ne se sont pas simplifiés ni apaisés à notre époque, n'en déplaise aux tenants du progrès, voire du progressisme. Quels que soient les bons sentiments, la nature humaine reste, malgré ce que l'on pourrait croire, toujours marquée par une sorte de péché originel, c'est-à-dire que bien et mal coexistent irrémédiablement en chacun d'entre nous et aucune idéologie, aucune technologie ne dépassera jamais ce fait anthropologique. Il nous reste donc, pauvres humains, à vivre avec notre humanité. Et justement, à l'ère des réseaux sociaux, de multiples assistants personnels, que l'on peut appeler coach, se sont développés en prétendant aider nos contemporains. Et si, malheureusement, la plupart prêtent à rire ou à sourire, il en est certain, heureusement, de sérieux. Et c'est justement l'un d'entre eux que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Stéphane-Edouard, bonjour.
Bonjour à vous, Hugues. Bonjour à Radio Courtoisie. Merci de me recevoir.
Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je vous présente pour nos auditeurs. Vous êtes essayiste, vidéaste. Vous êtes également conseiller en relations sociales et vous êtes essayiste. Et nous tournerons notre émission autour de deux grands sujets. Ben justement, ces relations sociales, comment justement essayer qu'elles soient les plus épanouissantes possibles. Et puis aussi, dans l'actualité, une affaire qui, je crois, vous tient à cœur, l'affaire Delphine Ernotte France Télévisions, qui est assez remarquable à plus d'un titre, car, encore une fois, je pense qu'avant que de conseiller les autres, il faut sans doute observer notre environnement et observer la nature humaine.
Je m'y efforce. Et je vous remercie d'ailleurs au passage d'avoir... de vous-même réorienter votre présentation, puisqu'il y a deux minutes, vous me présentiez comme coach. Enfin, vous avez glissé et surfé sur l'appellation coach sans vous y arrêter. Et puis, je suis devenu essayiste et vidéaste et polémiste, ce que je préfère amplement. Un coach, je vous le laisse volontiers. Les coachs, depuis 20 ans, sur le web et ailleurs, ne se sont pas illustrés ni par leur sagacité, ni par leur culture, ni par leur élégance. Donc, je laisse à qui veut le pseudo, l'appellation de coach, moi je ne la prends pas.
Alors justement, Stéphane-Edouard, vous considérez comment et qu'est-ce que vous voulez très simplement apporter à nos contemporains?
Moi je suis un ingénieur raté qui n'a jamais exercé, qui s'est essayé au secteur privé par l'entremise de ce qu'on appelait le métier du conseil, qui est une... Dans l'ensemble, il faut l'avouer, quand même une fumisterie. Et puis, démasquant la fumisterie et ayant un petit talent de plume, j'ai profité de l'essor de ce qu'on appelait les blogs dans les années 2000. Veuillez m'excuser. L'essor des blogs, disais-je, pour me faire connaître via d'abord un forum, puis un blog, qui a recueilli un succès d'estime, on va dire. Et ça faisait 10 à 20 000 lectures à l'époque, ce qui était... plus que satisfaisant. On est dans un contexte préhistorique. Hein. Il faut bien se rappeler qu'il n'y avait ni Facebook, c'était le début de Google, on accédait à Google par invitation. Instagram, on n'en parle même pas, ça n'existait pas.
Google, c'est 1997.
Alors, il me semble me souvenir qu'en 2005, ou en tout cas au début des années 2000, il me semble, moi je m'en rappelle, j'avais été invité à Google. On ne pouvait même pas s'y créer un compte tout seul. On était en bêta version, il me semble, je peux me tromper.
Alors moi je peux vous dire, parce que je suis un tout petit peu plus âgé que vous...
Ça ne se voit pas, Hugues, ça ne... Personne ne le voit, de toute façon on n'est pas filmé.
Et nous, voilà, comme dit ma femme, tu as un physique de radio. Bon, voilà. En 97 déjà, on pouvait accéder, 97-98, par les modems 56K à Google. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais en train de réfléchir à ma première entreprise qui allait être orientée sur Internet. Nous avions très peur, avec mon futur associé, que Google, qui bien évidemment enregistrait l'ensemble des requêtes puisque ça faisait partie du fonctionnement de son moteur de recherche, nous avions très peur qu'il repère notre bonne idée et qu'il la vende à quelqu'un. Donc c'était totalement faux et paranoïaque. Mais en tout cas, ça veut dire que le principe de Google a été dès le départ un accès libre à des pages rankées, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est-à-dire en réalité indexées en bon français.
Alors, je ne me battrai pas avec vous sur ce sujet. Il me semblait que début 2000, nous étions encore à l'époque de Google Beta. En tout cas, ce qui est certain, Hugues, c'est qu'il n'y avait ni Facebook démocratisé.
Ça c'est certain. Je crois que Facebook, c'est 2008.
Encore moins Twitter, encore moins Instagram. TikTok, on n'en parle pas. Donc, c'était un paysage où il n'y avait que la plume pour sortir. On ne se filmait pas puisqu'on n'avait pas de téléphone intelligent. On avait dans le meilleur des cas un téléphone d'ancienne génération. Et donc, par le biais de ma plume, j'ai ensuite accédé à quelques médias radio, à l'édition Flammarion, Hachette, RMC, passage éclair en mode un petit peu comète éclatée sur M6 en prime time en 2016. Et par le biais d'une histoire que j'épargne à vos auditeurs, car je l'ai déjà raconté 500 fois et... Je pense que le temps est venu de passer à autre chose. Eh bien, j'ai été explosé en vol pour soupçons de misogynie qui m'ont valu d'être au banc et de ne recevoir quasiment plus aucune invitation de grands médias depuis 2016, alors qu'avant, j'avais tout eu, le grand journal de Canal+, TF1, France 2. En 2008, j'étais au 100 qui font bouger la France chez Béatrice Schoenberg sur France 2. En 2011 ou 12, j'étais Mouloud Achour... devant Michel Denisot, disait que mes propos étaient salvateurs. Et puis tout à coup, hop, il suffit d'un soupçon d'atteinte à la sainte féminité, puisque nous sommes dans une société féminolâtre où quiconque émet le moindre doute ou la moindre critique ou la moindre observation sur l'essence féminine est immédiatement soupçonné d'être un monstre. Eh bien, j'ai été banni et vous êtes un des médias à m'avoir contacté post cet épisode-là, mais ils sont finalement, en 10 ans, ils sont finalement bien peu nombreux.
Stéphane-Edouard, d'une certaine façon, cela nous facilitera le rattachement à l'affaire que nous voulons aborder, puisqu'on est au cœur, d'une certaine façon, de notre société contemporaine, avec ses tabous, ses marottes, pour le dire gentiment. Je vous avoue que je ne vous ai pas découvert comme cela. Je vous ai découvert notamment par la Furia et par vos articles de fond que j'ai trouvé toujours assez intéressants et décalés. Et Radio Courtoisie est quand même une radio un petit peu intellectuelle et je ne vous cache pas que c'est plus votre côté intellectuel qui au départ m'a intéressé. Et ensuite quand même, j'ai trouvé que votre analyse des rapports sociaux, j'aime bien faire de temps en temps un peu de sociologie, me paraissait intéressant. Et encore une fois, voilà 30 ans que je fais des émissions à Radio Courtoisie et je n'ai jamais abordé ce thème. Or, je pense que c'est intéressant, les rapports sociaux. Bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça vaut peut-être un peu mieux que ce que l'on peut en apprendre, justement, soit à la télévision, soit au café du commerce. Les deux peuvent être intéressants, voire utiles, mais essayons de faire un tout petit peu mieux ou en tout cas différent.
Alors, je n'ai plus les exemplaires de La Furia ni dans ma poche, ni en tête. Or, c'est vrai que c'était un travail assez sourcé qui m'avait servi à double titre. D'abord, à me rappeler si je savais encore écrire, puisque je ne le faisais plus. On n'écrit plus, on ne sait même plus tenir un stylo, on a mal aux doigts. Donc, je me suis réessayé à l'écriture. Et deuxième volet... des sujets que je maîtrisais de loin, comme par exemple l'histoire de mon propre département d'origine, la Guyane.
Oui, parce que vous êtes Guyanais d'origine.
À moitié, oui. D'accord. Je fais partie de la génération du mélange qui vous tient tant à cœur, j'imagine. Mais en tout cas,
vous savez, le mélange, l'important, c'est qu'il soit bon. Hein. C'est comme dans les cocktails.
C'est le dosage. Comme je le dis dans ma prochaine vidéo, la capitalisation, en parlant justement du sujet qu'on va voir tout à l'heure, je dis La capitalisation, c'est comme l'immigration, c'est une question de dosage. Enfin, un petit peu, ça va, trop, c'est trop salé après.
Est-ce que vous vous souvenez de cette réplique absolument extraordinaire écrite par Audiard dans je ne sais plus lequel de ses films, entre la posologie et le veuvage, c'est une question de dosage.
Je me souvenais du sel et la soupe de Jean-Marie.
Et en réalité, c'est quelqu'un qui doit prendre ses gouttes et sa femme, qui est, enfin, ils sont tous les deux, je crois, barman, fait une erreur, etc. Et donc, il y a cette phrase parfaitement scandée et ciselée entre la posologie et le veuvage, c'est une question de dosage.
Eh bien, je suis très faillible en culture audiardesque, donc vous me l'apprenez. Et pour finir sur La Furia, oui, alors je ne suis plus publié, j'en ai écrit 12, 3 ans, hein, trimestriel, donc 4 fois 3, 12. Et ceux qui, par hasard, tomberaient-tu dans une brocante ou un vide-grenier ou que sais-je, constateront que c'est bourré de chiffres. Car en réalité, ça a été un exercice salvateur pour moi qui a été de rechercher. C'est-à-dire que des sujets que je maîtrisais de loin ou vaguement ou dont je me sortais par une pirouette, eh bien, je me suis mis à les sourcer. Donc, j'en ai fait 2 ou 3 sur les départements d'outre-mer sous la thématique « Faut-il réémigrer les racailles en outre-mer ?» Ce qui m'a permis, en fait, sous cet angle provocateur, bien entendu, et décalé, en fait, de résumer l'histoire de nos colonies ou en tout cas
de nos territoires d'outre-mer
et départements. Et de me rendre compte que plus de 50% des dates et des faits, je les avais complètement oubliés ou c'était flou. J'en ai fait 2 également sur les figures archétypales féminines de la Belle Époque, qu'on appelle désormais les hit girls. Donc vous savez, ces grandes veuves, ces grandes comtesses, ces égéries, ces prémices aux influenceuses, dont parfois on voit un nom passer sur un flacon de parfum, les Cléo de Mérode, les gens comme ça, en me rendant compte qu'effectivement, comme la plupart des gens, j'ignorais les anecdotes. Donc c'était à la fois un travail de révision personnelle, à la fois ça dérouillait un petit peu les poignets sur le clavier, et puis c'était rémunéré très correctement, j'ai pas à me plaindre de ça. L'équipe de La Furia... payé en temps et en heure, ce qui n'est pas toujours le cas dans les médias dits alternatifs, comme vous l'avez sans doute rencontré au cours de votre carrière.
Moi, je n'ai jamais été payé. Tous les patrons d'émissions à Radio Courtoisie sont bénévoles.
Alors moi, je ne fais plus de bénévolat. Comme on en discutait hors antenne, j'en ai vu les limites. Et voilà, ça s'est très bien passé. J'ai rien contre eux. Bon, un jour, ça s'est arrêté, mais tout s'arrête dans la vie. Et j'estime qu'il faut toujours faire bonne figure, voilà. Même si, après, bon, j'ai mes préférences et certains sont moins hauts dans mon estime que d'autres, mais je ne dirai ni qui, ni quand, ni pourquoi. Je ne suis pas dans la culture du clash. Moi, je ne clash pas, sauf si on me marche dessus, mais ça n'est pas le cas.
Là aussi, c'est un sujet que nous pourrons aborder dans ces marges. C'est celui, et souvent je mets mes émissions sous le haut patronage de la rationalité. Je crois que nous sommes un monde, je n'emploierai pas féminisé. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, avec Zemmour, etc. Je pense que c'est nous sommes dans un monde où la rationalité s'est retirée, un peu comme la mer à marée basse, en quelque sorte. Et donc, le sentiment prime sur les faits et la raison. Ah, j'ai l'impression qu'il m'a manqué de respect, j'ai l'impression que Stéphane Edouard est misogyne, je l'ai ressenti comme ça, je n'ai aucune preuve, je me suis levé le matin comme ça, etc.
On me l'a dit,
oui. comme dans la Fontaine, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos chiens et vos...
vos chevaux,
non, c'est vous, vos chiens et vos bergers, je dois me venger, on me l'a dit. C'est fascinant, tout est résumé dans la nature humaine, mais bon, c'est vrai que La Fontaine est une bonne référence. Donc là aussi, la question de la rationalité, et d'ailleurs, là aussi, je suis toujours fasciné de voir que l'Occident est moins Occident parce que la raison recule, et on voit bien qu'il y a d'autres Occidents qui émergent. Pourquoi la Corée du Sud s'est développée et pas la Corée du Nord? Parce qu'ils ont adopté les codes de l'Occident, dont notamment la rationalité, qui est le fondement essentiel. C'est-à-dire qu'on quitte le monde de l'animisme au sens très large du terme pour entrer dans celui de la raison. Voilà, alors évidemment, avec la raison, il y a des choses plus ou moins bonnes qui peuvent arriver, comme l'anomie, comme la perte du sens de la vie, comme une certaine religiosité. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et donc, voire en France, en Occident, et tout particulièrement en France, qui est quand même la mère des armes, des arts et des lois, avoir ce recul de la raison est quelque chose d'inquiétant. Parce que quand il n'y a plus de raison, tous les excès aussi sont possibles. Et le totalitarisme arrive beaucoup plus facilement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je vais me permettre de répondre en très léger décalé et revenir sur votre conception occidentale. Moi, j'ai été particulièrement séduit, alors ça remonte à plusieurs années, mes citations seront approximatives, mais le sens y sera, par une conférence de Camus. Je crois que c'était lors de son discours de... Comment ça s'appelle ? C'est pas un discours d'entrée, mais enfin...
De réception.
Discours de réception. Il avait évoqué sa conception de non seulement de l'Occident, mais de l'Europe au sein de l'Occident. Et il avait, si j'ai bonne mémoire, résumé cela en un volet de la différence entre l'Europe et le reste de l'Occident, comme par exemple les Amériques. Un volet, c'était le rapport à la nature, la manière dont nous la plions moins à nos besoins logistiques, comme par exemple une ville américaine, voilà, on s'en fiche qu'il y ait une rivière, montagne, n'importe quoi à côté, tout est taillé à la serpe de manière orthogonale. La manière dont nous composions avec les contraintes naturelles était un des facteurs. Le deuxième, c'était notre esthétique de la mesure. Il estimait, selon moi, à juste titre, que la différence entre les Occidents était que l'Europe était encore ce pays qui, où le beau n'était pas le plus grand, le plus gros ou le plus fort, mais c'était celui... L'équilibre des compositions, des masses, des formes, etc. Là encore, pour prendre notre voisin outre-Atlantique, là-bas, le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus lourd, c'est le plus riche. Donc c'est très européen, l'harmonie des proportions. Alors après... D'où le fil ténu qui va lier les artistes. On peut partir de la proportion de Vinci, de Michel-Ange. Donc le rapport à la nature et notre manière de moins la déformer à nos besoins existentiels, le sens de l'équilibre. Et le troisième était, c'est là que la mémoire me fait défaut.
Sens de la mesure, non, c'est pas ce que vous évoquiez.
Le deuxième était le sens de la mesure et le troisième m'est sorti de l'esprit. Mais oui, effectivement, ça demande un effort rétrospectif d'importance de se souvenir un petit peu dans qu'est-ce que c'est d'être occidental. Est-on d'abord européen ou français, ou français et européen? Il faut avoir vécu, comme j'ai eu la chance de le faire, un petit peu, je dirais pas sous de latitude, parce que les pays sont très proches, mais ayant passé un certain temps en Italie, il faut, comme on dit à peu près tous les écrivains, se décentrer un petit peu, voir les travers de ses proches. Il faut les quitter pour les observer mieux. Donc voilà, je ne suis pas un grand voyageur, je ne prétendrai jamais l'être, mais il est vrai qu'au cours de ces 10 dernières années, ayant pris un petit peu de distance par rapport à la France, je ne l'ai pas complètement quitté, mais ayant pris un petit peu de distance par rapport à la France, j'en observe d'autant mieux les beautés, mais aussi les
travers,
les travers. Comme tout bon observateur de ses contemporains, j'imagine. Mais j'ai oublié votre question, je vous prie de m'en excuser.
Non, c'est que encore une fois, mon propos n'était pas de comparer les Occidents, et je sais combien il y a de différences, et notamment avec nos cousins d'outre-Atlantique. C'était que cette rationalité me paraissait être consubstantielle à l'Occident en général, donc c'était vraiment un trait commun qui, évidemment, n'efface pas les particularités, et que ce trait commun, si on le perd, on perd l'essence de ce qui a fait justement l'Europe, et donc l'Occident, parce qu'il y a eu l'Europe avant l'Occident quand même. Et je suis inquiet en réalité, c'est ce que je veux dire, de cette perte du respect finalement pour les faits, pour la rationalité, etc., qui nous amène à ne pas nous comprendre en réalité.
Je suis tenté d'être d'accord avec vous, mais pas à 100%. Alors, j'ai le plus grand respect pour le beau logos grec et la belle ratio romaine. L'impression que me donne cette époque, c'est de les circonscrire à des moments temporels, à des lieux très très circonscrits, comme par exemple, on reprochera rarement à un concours, à un examen ou à une épreuve de quelconque nature d'être objectif et rationnel. Quand on doit se faire opérer d'un mot, d'un mal qui nous ronge, on ne va pas reprocher au chirurgien d'être rationnel. Par contre, quand on évoque une problématique relationnelle, ce que j'appelle un dilemme relationnel dans mes études de cas, sur ma chaîne YouTube éponyme Stéphanie Audouard études de cas, et bien là, dès que j'essaie de réfléchir rationnellement à un divorce, à un pacte d'associés qui tourne mal, à un conflit familial inexprimé, eh bien, tout à coup, les mêmes gens qui, a priori, n'ont rien contre ni la ratio, ni le logos, ni rien, s'insurgent ou me trouvent insensible ou glaçant ou provocateur, alors que, simplement, j'essaie d'apporter une dose de logique en partant du postulat que les gens ne perdent jamais de vue leur propre intérêt. Ça, je ne vénère pas la sociologie peut-être autant que l'on croit que je le fais. C'est une discipline par laquelle mon chemin est passé, un an ou deux, c'est tout, ni plus ni moins. Mais une, si ce n'est la seule conviction que je me suis forgée dans ces classes, dans cet univers, c'est que c'est la rationalité limitée. Les gens ne perdent jamais de vue leur intérêt, et vous n'arriverez jamais à rien tant que vous ne vous mettez pas à leur place en vous disant qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à y gagner dans cette affaire. Et c'est vrai que sur les questions relationnelles, voilà, encore une fois, de couple, d'union, de désunion, eh bien, il est très difficile de ramener les gens à cette part de logique. Ils pensent que nos comportements, tout à coup, en seraient dénués, qu'on fonctionnerait selon d'autres règles, que tout à coup, on n'aurait plus d'intérêt personnel, qu'on serait mu par des purs sentiments totalement éthérés qui se répandraient d'une manière arbitraire. Je dis que non, les sentiments, un, ne sont pas éthérés, ils sont pas éthérés, ils sont incarnés, et deux, ils ne sont pas arbitraires du tout. Et c'est souvent... Les relations, c'est souvent bien plus logique qu'on ne pourrait le croire.
Et que chacun peut le... Et ce n'est pas parce qu'on ne le reconnaît pas pour soi-même ou pour les autres que ce n'est pas vrai, c'est ce que vous vous dites.
Ah oui, absolument. je suis le premier à dire que, bien qu'en ayant fait mon métier, quand je suis personnellement concerné, il faut que je parle à un autre. Je suis le plus grand des aveugles.
On n'est pas le... Oui, je ne sais plus quel est l'écrivain qui avait dit que le problème de notre temps... Alors, il écrivait déjà il y a un certain temps, je ne sais pas si c'était 100 ans. Le monde moderne a remplacé l'art de se connaître par l'art bien plus simple de connaître les autres.
J'aimerais bien vous aider sur la source de cette citation. Je ne l'ai jamais entendue, je la découvre avec vous. Mais oui, il est effectivement plus simple de prétendre avoir cette espèce de sursaut d'intuition et de décoder les gens que oui, de savoir comment on est mu. Oui, c'est probable. Oui.
Alors justement, Stéphane-Edouard, venons-en de façon peut-être un petit peu plus générale à vos observations et votre analyse sur les rapports hommes-femmes, les rapports hommes-femmes de nos jours, comment ont-ils évolué et voilà, que peut-on en dire ?
Alors, moi, j'ai la chance ou la malchance, comme vous, j'imagine, de faire partie de cette génération qui n'est ni jeune ni vieux. Donc, nous avons été, en termes de plaques tectoniques, nous avons été à la confrontation de deux mondes, le monde traditionnel, dont je fixe arbitrairement la limite à peu près, on va dire, à la télé couleur, hein, à la décennie qui a suivi la télé couleur.
Ah, c'était quand la télé couleur, parce que
les années 70, je pense. La généralisation de la télé couleur, pas d'accord. L'invention.
Mais oui, mais la génération dans les foyers.
Voilà. Et puis ensuite, on a donc connu la génération télé. Hein. Moi, je suis un enfant du Club Dorothée. Hein. Jackie, Corbier, Ariane et Dorothée, ce sont mes premiers éléments de pop culture, enfin les premiers, ceux dont on s'imbibait à volonté, c'était ça. Et puis ensuite, on a la génération Internet. Et ça ne correspond pas tout à fait d'ailleurs à l'appellation Z, X, Y et Millennial, mais je la ressens plus. quand on me parle de X et de Y, je dois toujours faire un effort mental de me souvenir quand est-ce que ça commence. Tandis que moi, si on me dit je suis télé couleur, télé noir et blanc, ou Club Dorothée, ou Internet, tout à coup, je cible. Et j'ai observé, sans, évidemment, à l'époque, j'avais 12-14 ans, sans m'en rendre compte, une lente évolution des rôles des hommes et des femmes dans les séries télé. Et c'est parti de là. Il y avait, même si je suis un peu trop jeune pour ça, mais il y avait, dans ma première décennie, je voyais des rediffusions de Starsky et Hutch, du commissaire Maigret, de choses comme ça. Et puis tout à coup, dans les années fin 80, début 90, par l'importation notamment américaine de séries, nous avons commencé à avoir des séries où les protagonistes étaient des couples, ce qui était très rare avant. Ça a commencé avec Madame est servie, le Cosby Show, ça c'est ma génération, ça a été suivi juste après par... Alors ça, je ne l'ai pas regardé, ça ne me plaisait pas, mais je crois que ça s'appelait Al Bundy, quelque chose comme ça.
Je n'ai jamais eu la télévision, donc je suis désolé.
Ah, alors vous avez raté, vous n'êtes pas un enfant de Dorothée. C'est ça. C'est ça que je sentais chez vous, l'absence de Dorothée. Vous
avez... L'absence totale de culture, je le reconnais.
Dorothée, notre mère nourricière à tous. Et donc, c'est produit sur l'espace d'une, je dirais, d'une demi-décennie, l'irruption dans le PAF, donc le paysage audiovisuel français, de séries tout public dont les protagonistes n'étaient ni des hommes ni des femmes, mais c'était des couples. Et notamment des couples filmés la plupart du temps à la maison. Ce qui était très rare. Je vais vous citer des choses que vous n'avez donc pas vues, mais Zorro, ce n'était pas un couple à la maison.
En fait, vous vous dites que c'est plutôt la figure du héros solitaire qui prévalait avant et qu'ensuite, on est rentré dans des considérations plus ancillaires, c'est ça ?
On est rentré dans des considérations domestiques où le rapport de couple devenait... le troisième protagoniste, c'est-à-dire qu'il y avait le monsieur, la dame, souvent à égalité, voire dans Madame est servie à contre-emploi, puisque le patron était la femme, ce qui était une des premières séries populaires où le protagoniste riche et qui commande était Madame Angela Bauer, et où le domestique était Tony Micheli, un homme. Et nous avons donc vu apparaître de manière récurrente le conflit de couple, ou le conflit homme-femme, comme étant un sujet d'intrigue à part entière, ce qui n'était jamais le cas avant. Je vous mets au défi de me trouver une série pré-années 80 où l'intrigue d'un épisode reposait sur un conflit homme-femme. C'était rarissime.
En revanche, au 19e siècle, c'est monnaie courante chez nos auteurs favoris, Labiche et autres, où on est sur du vaudeville et le terme est resté sur voilà, les portes claques, l'amant rentre, la femme sort, le mari, le confident, etc.
Et avant Labiche chez Musset.
Exactement.
Chez Feydeau, on est bien d'accord.
Donc est-ce qu'on ne revient pas dans le fleuve initial?
Alors, vous allez voir pourquoi je m'en vais prendre un affluent de ce fleuve que vous n'aviez pas vu venir. C'est parce que mon sujet n'est pas que la mode, la tendance ou la focale se fasse à nouveau sur la relation homme-femme. Mon sujet est que la primeur a été donnée au protagoniste féminin de l'histoire et on a commencé régulièrement à faire de l'homme un benêt. C'est-à-dire... moi, ma série culte, c'est le Cosby Show, pour des raisons que j'ai déjà exposées longuement, qui était que mon père étant très fidèlement absent, j'avais besoin d'un modèle paternel, et celui qui me semblait le meilleur, c'était le personnage. Je dis bien le personnage, non pas l'acteur, mon Dieu, qui a plus tard été reconnu comme étant déviant, mais le personnage écrit dans cette série. J'aimais ses sentences, ses maximes, ses morales, comment il éduquait ses enfants.
Parce que quel est le thème du Cosby ?
Le thème, c'était la première série afro-américaine en quasi-monopole, il y avait quasiment que des personnages afro-américains, bourgeois. Ça existait avant, mais c'était des prolétaires du ghetto. Et là, c'était un couple médecin-avocat qui avait 5 enfants. Les enfants faisaient des bêtises et ils les éduquaient. Avec une grande finesse, une grande intelligence. Mais néanmoins, j'avais beau adorer cette série, et de l'avoir en cassette, en DVD, en tout ce qu'on veut, l'avoir vue 10. Je remarquais néanmoins que dès qu'un dissensus se faisait entre l'homme et la femme, c'était toujours la femme qui gagnait. Qui remportait la partie, l'homme venait s'excuser benoîtement, bêtement. Il y a notamment un épisode où c'est un concours de culture générale et où les protagonistes et leurs camarades d'un cercle de culture, ou d'un cercle de visite de musée ou je ne sais pas quoi, doivent lire un nouveau livre chaque mois et venir en débattre. L'initiative, voilà, vous en conviendrez, est tout à fait louable. Et évidemment, qui n'a pas lu, qui est à côté de la plaque, qui n'a rien compris ? L'homme. Et c'était systématiquement comme ça. Et j'ai appris plus tard, bien plus tard, j'ai appris quasiment deux décennies plus tard, par une camarade de classe qui s'est avérée travailler ensuite dans la publicité, que voulant faire valider une publicité par, alors était-ce l'ARCOM à l'époque ? J'ai un doute. Bon, par l'organisme non, qui
C'était le CSA avant.
Voilà, alors à l'époque...
Avant l'ARCOM, fut le CSA.
Était-ce le CSA qui validait les publicités ou était-ce un organisme similaire dédié à la publicité ? Je ne sais plus.
Ah oui, probablement, oui.
Donc, il y existait, pour que votre publicité passe à l'antenne, un organisme avec...
Oui, je crois que c'est le bureau de vérification de la publicité ou quelque chose comme ça, oui, oui.
Qui s'assurait... Et alors ça, je le sais de source sûre, qui s'assurait que les représentations féminines n'étaient jamais péjoratives. Et en cas de début, de commencement, de le moindre doute sur le fait que la publicité pouvait être péjorative à l'égard d'une femme présente ou même pas présente d'ailleurs, eh bien, c'était retoqué. Et donc, ce que faisaient les petites boîtes qui avaient moins de moyens, qui n'avaient pas les moyens de sortir 10 versions de leur publicité, c'est qu'ils préemptaient cette contrainte en disant bon, comme on va pas en faire 50, on va en faire qu'une et
donc
on va
passe.
Être sûr que l'homme est bien ridicule afin que on ne puisse pas nous reprocher de. Et donc eux en l'occurrence, bon, je vais pas dire qui c'est, mais en l'occurrence ils mettaient en scène c'est dans le monde de la banque et des applications bancaires et ils mettaient en scène un couple qui était les finances étaient un petit peu à volo. Les finances allaient dans tous les sens et il leur manquait une application qui leur permette de suivre cela, etc. Eh bien, ils ont volontairement forcé le trait, alors qu'initialement, dans leur script, c'était la femme qui était dépensière et l'homme qui s'en plaignait. Eh bien, pour être sûr que ça passe, ils en ont fait le contraire. Donc.
Et la femme est un roseau dépensant, c'est ça ?
Je ne l'ai pas, celle-là.
La femme est un roseau dépensant, le roseau pensant, vous savez.
Ah non, je ne l'ai pas du tout.
Bon, ce n'est pas grave.
J'ai le roseau qui plie et ne rompt pas, de La Fontaine, mais je n'ai pas le roseau pensant.
Oui, je ne sais plus, je crois que c'est Sacha Guitry qui avait sorti cette...
Ouais,
bon. Grand misogyne devant l'éternel, on est d'accord.
De père en fils.
Oui.
Mais tous sont misogynes, de toute façon, comme l'illustre le magnifique dictionnaire de la misogynie. On voit qu'absolument tous, de Guitry à Balzac, en passant par Nietzsche et par Gainsbourg,
ont
tous eu des saillies d'une misogynie noire.
Mais puis surtout, je pense qu'il faut quand même comprendre que tout homme ayant un peu d'humour a envie de se damner pour un bon mot et que ça ne reflète pas forcément le fond de sa pensée. Enfin,
ou
bon,
ni l'intégrité de sa carrière. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, il existe à l'œuvre, encore aujourd'hui, j'en suis sûr. Mon anecdote remonte à une dizaine d'années, mais je suis plus que convaincu que c'est encore à l'œuvre.
Oui, ça ne s'est probablement pas forcément amélioré, on est bien d'accord.
Voire empiré. Il existe des organismes de certification qui matricent, qui conforment, qui plient absolument tout ce que nous voyons publicitairement au point de vue des productions sponsorisées par le CNC et consorts. Absolument tout est passé à travers une grille s'assurant que s'il y a un personnage rédhibitoire, antipathique,
ridicule,
c'est l'homme,
oui.
Que s'il y en a un ridicule, c'est l'homme, que s'il y en a un qui dépense trop, c'est l'homme, que s'il y en a un qui est violent, c'est l'homme, que s'il y en a un qui ment, c'est l'homme, et que c'est, sauf cas exceptionnel, rarement la femme. Et cette éducation des esprits soft, le fameux soft power, est insidieusement partout, au point que quand, je me rappelle la première de mes verbatims, le premier de mes verbatims m'ayant valu l'opprobre, était, je le cite, c'était il y a plus de 10 ans, j'avais dit à propos d'une altercation ou d'une violence de nature, je me souviens plus, une violence de nature, c'est pas un viol, mais enfin un truc un peu qui sentait pas bon, j'avais dit, on me demandait mon avis, j'avais dit, moi je veux voir les bandes, j'en sais rien. Je n'ai a priori pas d'avis, mais j'en aurais peut-être un.
On revient sur la notion de rationalité, regardons les faits.
Voilà, et on m'avait reproché, alors quel journal était-ce ? Alors, c'était peut-être Le Canard à l'époque, je ne sais plus.
Peu importe.
On m'avait reproché d'être un pervers parce que j'exigeais...
Des preuves.
Alors d'abord, un pervers, je peux vous assurer qu'avec tout ce qui est sorti depuis, moi, vous pouvez voir mes disques durs, il n'y a pas de dossier Epstein dessus, il n'y a rien de prépubère ou d'immature, absolument rien, il n'y a même pas un porn d'aucune chose. Mais à l'époque, le simple fait d'avoir dit...
Vous avez douté.
J'ai douté.
Voilà. C'est le crime voilà. De pensée.
J'ai douté que la femme soit par essence une victime expiatoire et que l'homme soit par essence le bourreau. Et ça m'a été reproché.
Oui, le fameux systémisme dont parlent justement les féministes. Alors justement, selon vous, cette ambiance, puisque c'est un petit peu ça de la société dans laquelle on est et qui se manifeste par cet exemple et bien d'autres, bien évidemment, nous disent quoi justement, j'en reviens à ma question, aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes et comment ont-ils évolué justement sur les 30, 40, 50 dernières années ? Parce que moi, je ne vois pas d'évolution, mais parce que étant marié, j'ai peu l'occasion de... Vous imaginez bien de découvrir d'autres univers.
Cela ne nous regarde pas. Certains auront la rêve, je pense que n'ayant pas eu la télé, vous ne l'avez pas. Mais...
Si, quand même. J'aime beaucoup les inconnus. Donc, comment ont évolué justement ces rapports hommes-femmes ? Moi, j'avoue, je suis très... masculin en cela, je ne vois pas la subtilité dans les rapports et donc je ne vois pas leur évolution, objectivement.
Bien, je vais vous répondre par une pirouette, vous allez peut-être m'en vouloir, mais moi, la plus grosse arnaque contemporaine à ce sujet, c'est qu'en fait, le sujet n'est pas un sujet, il ne l'a jamais été. C'est-à-dire que je suis systématiquement désormais interrogé quand je suis reçu, et je vous remercie une nouvelle fois de me recevoir, sur l'existence d'un concept de relation homme-femme comme sujet épistémologique, il faut savoir que cette préoccupation, elle a moins de 20 ans, voire moins de 10 ans.
Ça, c'est intéressant.
Avant, absolument personne.
Oui.
J'ai de la presse
pour se poser la question.
Pour mes recherches, j'ai à peu près tout ce qui est sorti en presse sur le sujet. Ça fait des cartons, hein, voire des palettes, depuis en gros les années 70. Ça n'était pas un sujet. Il y avait des sujets famille, il y avait des sujets connexes, mais l'idée que la nature même, la couleur de notre interaction puisse être matinée par qui MeToo, qui Weinstein, qui des statistiques de divorce, de machin, de trucs, ne venait à l'idée de personne. C'est globalement le virage des années 2000-2010 avec... je dirais plutôt la prédominance de 2010. Alors, on dit MeToo est à l'origine de tout, mais MeToo n'est pas survenu dans un vide social. Vous me demandez un travail presque de l'ordre de la dissertation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes n'ont jamais eu autant de raisons, objectives ou pas, c'est un autre sujet, mais autant de raisons de se séparer, mais ils n'en ont jamais eu aussi peu la possibilité. Et ils sont souvent contraints de vivre ensemble pour des raisons logistiques, pour des raisons de décroissance forcée, pour des raisons de crise du logement, pour des raisons d'incertitude et de doute et d'angoisse par rapport à ce que sera notre retraite, notre patrimoine. Et pourtant, on les enjoint à se tromper, à se lasser... à se remplacer.
À se tromper, c'est-à-dire à faire des erreurs ou d'être infidèle.
les publicités pour l'infidélité sont partout.
Oui, ça m'a paru un peu surréaliste.
Les incitations au couple libertin également.
Voilà. Ça m'a paru surréaliste et absolument pas pour une question de morale, mais je considère qu'une société a un intérêt objectif à la stabilité dans tous les domaines et bien évidemment dans le domaine de la famille et du couple. Donc ma condamnation n'est absolument pas fondée sur une quelconque raison morale, mais simplement je pense en politique, si vous voulez. Ça me paraît surréaliste.
Je ne sais pas si c'est surréaliste ou pas. Ce qui est certain, c'est que le fait de transformer une pratique d'élite, puisque les libertins ont toujours existé, mais c'était quand même...
Mais c'est ceux qui ont les moyens. Hein,
voilà, qui ont les moyens, le temps, la logistique et une certaine forme d'éducation sentimentale, oui. Dirait Flaubert. C'est-à-dire, si on commence à se tromper dans tous les sens, alors qu'on n'est pas cadré, formé mentalement avec une certaine épaisseur culturelle, ça se transforme en vendetta. en bas de l'immeuble par... ou alors, dans le meilleur des cas, si le mari est inoffensif, ça se transforme en vaudeville. Mais malheureusement, dans une société belliqueuse, armée, où on ne peut pas faire un trajet en vélo, je suis venu en vélo chez vous, je me suis encore fait embrouiller, où on peut pas, on peut même pas dire clignotant à quelqu'un sans qu'il menace d'ouvrir sa portière et de venir en découdre, eh bien ça ne se transforme pas en vaudeville, ça se transforme en...
En drame familial.
En drame, en, voilà, en petite vendetta de bas étage, etc. Donc, il y a effectivement, selon moi, une des manières de peindre le problème, c'est que l'on suggère de manière plus ou moins subtile et quasiment quotidiennement aux gens qu'ils auraient intérêt à se séparer, à se comparer, à se soupeser, à aller voir ailleurs et à presque se peser finalement la valeur de son investissement, se dire bah, j'ai misé sur tel cheval, mais finalement, bah, une fois qu'il m'a eu, il n'investit plus sur moi, alors peut-être qu'un autre homme le fera plus. Peut-être ou pas, c'est à voir. Mais que concrètement, de par un, j'ai dit la crise du logement, de par deux, la spécialisation des compétences où les gens qui sont capables de survivre seuls sont de plus en plus rares. Nos grands-parents en étaient globalement capables. Mon grand-père, il savait... il n'était pas très fort en cuisine. Enfin, tout le reste, il aurait à peu près pu tout réparer, voire vivre dans le noir. Aujourd'hui, on appelle... moi, je le vois, mes amis appellent des prestataires pour déboucher un siphon dévié ou pour dévisser, régler une fenêtre, quoi. Je veux dire, même si la vis est apparente et qu'on demande à ChatGPT, je veux tourner laquelle, il vous dit celle du haut. Voilà, donc on est complètement incapable de survivre
d'autonomie.
Seul. On a un patrimoine moyen des capitaux propres très, très, très faibles. Les salaires,
200 000 euros,
voilà.
Le patrimoine moyen français, net de dette.
Absolument. Donc, à part se loger à Mulhouse, à Perpignan et à Saint-Étienne avec 200 000 euros, c'est quand même compliqué. Et tout est fait pour nous inviter à exploser la cellule familiale. Moi, je ne prône rien, je ne suis pas particulièrement conservateur sur ces sujets. Si vous voulez avoir deux épouses, enfin deux fréquentations bien vous ensemble, fréquentation, ben, je ne suis pas polygame, mais si vous voulez avoir une vie faite de rencontres opportunes et nombreuses, grand bien vous en fasse. Mais je remarque, un, que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Deux, qu'à la fin, ça n'enrichit que les psys et la consommation d'antidépresseurs et de séries, ce que j'appelle les tisanes tièdes, de séries où les personnages sont en continuelle introspection sur leur vie sexuelle et amoureuse, etc. Je ne suis pas sûr que l'issue collective soit très positive.
C'est exactement ce que je voulais dire en rattachant ces publicités.
Vous êtes plus efficace que moi, vous êtes plus synthétique.
Non, mais... mais... tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Justement, là aussi, faisons un tout petit peu œuvre de sociologue, parce qu'on parlait des consommations d'antidépresseurs, et c'était le sujet que je voulais aborder ensuite. Nous n'avons pas l'impression que nos contemporains sont parfaitement épanouis et heureux. Or, sans faire de grande philosophie, c'est quand même un des buts de la vie, d'avoir une vie quand même, une bonne vie, comme on disait autrefois. Et là aussi, à l'aune de toutes ces personnes, qu'elles soient seules, en couple, etc., et de toutes les situations que vous avez analysées, parce que vous l'avez rappelé, et nos auditeurs peuvent aller regarder sur Internet votre site Internet, c'est toute une partie de votre métier, c'est l'accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, de cet état des lieux de la société française ? En réalité, ma question est extrêmement ambitieuse. Je vous demande, en quelque sorte,
je vous confirme.
d'être le Guili ou le Fourquet, hein, vous savez, sur le panorama de la société française, d'un point de vue un petit peu social, sociologique.
Alors, je suis obligé de le reconnaître, même si ça me déplaît, que les gens qui me consultent ne sont pas un échantillon représentatif. Par définition, c'est déjà un échantillon qui, un, s'est penché sur le sujet, deux, qui a les moyens de me consulter, je l'ai expliqué, j'ai fait du bénévolat il y a bien longtemps, c'est terminé, et trois, qui généralement ont un problème urgent. Et ça, je ne cesse de me répéter, de leur dire que quand ça devient urgent, c'est trop tard. Mais bon, la nature humaine, comme vous dites, est faite ainsi qu'on ne s'alerte que quand le sang a déjà commencé à couler, alors qu'on aura pu voir qu'on a une tache qui grandit, maintenant on s'alerte quand on ne peut plus se lever. Bon, donc mon échantillon, il est déjà dans l'action. Après, au-delà de mon échantillon, voilà, on a déjà commencé à l'évoquer, c'est l'empire de la tentation, dont les femmes se présentent toujours comme victimes, voire victimes expiatoires, mais dont elles sont parfois également actrices. Je vais prendre un exemple, parce que là, on est sur
des généralités.
On est sur des généralités un peu épistémologiques. Les tenues de volleyball. Vous avez vu les JO? Non, vous n'avez pas de télé, mais vous avez quand même les JO, vous avez les Jeux Olympiques.
Je n'avais pas de télé. Maintenant, je sais. Mais alors, en plus, je n'aime pas du tout le sport. Ça m'ennuie à mourir, donc je n'ai même pas vu les Jeux Olympiques.
Je vous recommande le volleyball féminin, quand même, Hugues.
Oui, enfin, bon, quand même. Je ne suis pas déprimé à ce point, tout de même.
Alors, chaque Olympiade, donc tous les 4 ans, que je suis de très, très loin, il y a toujours un débat sur le facteur émoustillant des tenues de volleyball féminin. Et je croyais...
Comme pour le patinage.
Particulièrement le volleyball. Bon. Le patinage, c'est généralement du monokini. Le volleyball, c'est du bikini.
Je dois avouer qu'il m'est arrivé de regarder du patinage en zappant. Bon, après, évidemment, je me suis rapidement repris, mais tout de même.
Et... J'avais cru moi-même, vous voyez, pourtant étant plutôt défiant de la pensée dominante.
Oui, et prévenu de ces mirages.
Je m'étais laissé aller à croire qu'effectivement, elles étaient contraintes par leurs sponsors à s'exhiber. Vous prenez une équipe de volley de la même année, la même décennie, la même Olympiade, du même pays, masculine et féminine. Les hommes sont deux tiers couverts. Les femmes sont en maillot de bain. À titre personnel, là, ce n'est pas le sociologue qui vous parle, c'est l'esthète. Titre personnel, moi, ça me va bien.
Oui, moi, non, pareil, je n'ai rien contre.
Mais là, vous ne vous adressez pas à l'esthète qui a grandi dans les années 80 où les femmes étaient topless à la plage. Là, vous vous adressez au sociologue.
En effet.
Le sociologue est obligé de dire qu'après avoir naïvement cru à l'argument féministe que les pauvres y étaient contraintes par leur fédération, par leurs équipementiers,
oui, par l'argent, en fait.
Par le capital, eh bien, le sociologue est allé vérifier. Et il est allé, merci Claude et ChatGPT, il est allé, ce qui prend deux secondes maintenant, il est allé exhiber les règlements. Et dans les règlements, il est écrit noir sur blanc que toutes les tenues, de la plus couverte pour les pays du Golfe à la plus découverte, sont autorisées. Donc, l'argument de la réglementation tombe à l'eau. Après, que se passe-t-il derrière les murs capitonnés de chez Nike, Reebok et compagnie? Nul ne le sait, on n'y est pas.
Oui, enfin bon, mais... pas besoin d'être un grand publicitaire pour comprendre que le nu a toujours fait vendre de la casserole à la voiture en passant par on ne sait quoi.
Sauf que... l'argument qui systématiquement qui nous est opposé, c'est les pauvres, elles n'ont pas le choix. Moi, je suis désolé, je vais à la source. Si elles ont le choix, après, qu'il y ait un bras de fer autour d'une compétition sportive entre l'actant, le sponsor, il y en aura d'autres. Je veux dire, les hommes aussi doivent avoir un bras de fer entre, je ne sais pas quoi, j'ai envie d'avoir ma marque ici, mon truc, machin. Mais vous voyez cette arnaque qui consiste systématiquement à placer la femme comme l'objet d'un projet visant à la spoiler, à la déshabiller, à l'exploiter, etc. Ce que ce serait inscrit dans la Bible du secteur. Et quand on va lire la Bible, il est écrit, mais non, vous pouvez très bien vous couvrir des pieds à la tête. Donc, ça n'est qu'un micro-exemple. Je ne dis pas que cet exemple ouvre toutes les portes. Je vous en donne un au hasard parce qu'il est vrai et qu'il est récent. Et tout est comme ça.
Et donc, si on revient donc à ma question sur, j'allais dire, l'état de la société française dans ses rapports en général, comment vous voyez cela? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une peur collective et individuelle. Bon, tout le monde constate l'anomie, ne serait-ce qu'elle est matérielle lorsqu'on voit le nombre de mères célibataires. Enfin, c'est, voilà, ça commence déjà par là. Je sens une dégradation, si vous voulez. J'ai l'impression de ne pas être le seul, en tout cas quand je lis les différentes études, etc. Et donc, vous, comment vous voyez un petit peu la situation des Français? Les Français sont-ils heureux? On n'en a pas totalement l'impression. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui sont faites et qui sont comparées avec des études internationales. Et j'aimerais avoir votre regard de sociologue sur l'état individuel et collectif de la société française.
Bah, je pense qu'on ne peut regarder cet angle de la société française sans regarder les États-Unis, puisque quand j'étais plus jeune, on disait que ça arrivait chez nous une génération après. Après, on a dit ça arrive chez nous 10 ans après, et maintenant, on en est à ça arrive 6 mois après. Donc, il suffit de regarder avec 6 mois d'écart. Et ce qu'on voit globalement, c'est deux choses. On voit d'abord les femmes dans l'attente d'un partenaire idéalisé qui n'existe pas.
Le prince charmant.
Sur des critères. Alors, le prince charmant a toujours existé, mais sauf qu'il n'était pas objectivé. Il n'était pas objectivé.
Maintenant, mais ça restait un idéal type.
Oui, un archétype. Maintenant, notamment grâce à la popularisation de ce qu'on appelle les podcasts, les shorts, les vidéos courtes, etc., il y a un certain nombre de chiffres en deçà desquels les partenaires masculins ne sont plus validés ou validables. Donc, il faudrait qu'ils fassent 6 pieds. Donc, 6 pieds, ça doit faire, je ne sais pas, 1,85 m, quelque chose comme ça.
Ce n'est pas une bonne nouvelle que vous m'apportez là.
Qu'il est... Mais assis, on fait tous la même taille.
Oui. Et allongé aussi, oui.
Allongé, non. Clin d'œil à mes haters qui ne cessent depuis 20 ans de répandre que je suis tout petit, alors qu'on dit le contraire partout où je vais.
Les critères.
Alors, ça serait en anglais, donc 6 foot, 6 figures, donc une rémunération annuelle à 6 chiffres. Et encore, pas 100 001, plutôt
500 001.
Voilà, exactement. Et moins de 40 ans, et tous ses cheveux, il y en a un que j'ai pas. Il y en a même deux que j'ai pas. Non, 6 foot, 6 figures, 6 pack. C'est-à-dire, un corps qui nécessite de passer deux heures par jour à la salle, 6 jours par semaine.
Mais pas à la bibliothèque.
Non, d'ailleurs, je recommande, là, une vague caniculaire est prévue pour la France. Je recommande à tous ceux qui cherchent la fraîcheur, musée, bibliothèque. Il n'y a jamais personne. Vous y allez les jours où il fait 45 dehors, il fait très frais pour conserver les livres et les œuvres, et il n'y a personne. Donc, 6 foot, 6 figures, 6 pack. Et ce qui pouvait sembler un slogan dérisoire, voire absurde, eh bien, on s'est rendu compte par une certaine forme de, comme vous disiez, d'anomie, donc d'absence de normes, et également la baisse généralisée du QI, l'incapacité à compter. Moi, on s'est moqué il y a quelques années, j'avais dit dans une vidéoscopie que les jeunes ne savaient plus lire l'heure. On m'a dit, mais arrête, vieux conservateur, etc.
Vieux schnock.
Énormément de vidéos sortent maintenant où on voit des jeunes bégayer devant une pendule. Et je l'ai dit il y a 5-10 ans, ça. Donc, maintenant, ils ne savent plus lire l'heure, ils ne savent pas faire les règles de 3, ils ne savent pas compter, ils ne savent pas lire l'écriture manuelle, ils ne savent lire que les caractères, et encore lire, déchiffrés. Donc, anomie, baisse de QI, baisse du niveau culturel, de la logique, de la ratio, des chiffres et des lettres, à la fin... Et pente naturelle, on va dire, à la pensée magique. Énormément de femmes plus ou moins jeunes. Coucou Anne et Brad Pitt. J'espère que vous n'avez pas raté ce magnifique épisode de cette Française convaincue d'être la proie de Brad Pitt. Oui, mais il n'y en a pas qu'une. Elles sont convaincues que...
Il faut en dire un mot, c'est fascinant.
Elles sont convaincues qu'elles méritent, sur la base d'une promesse sacrée du fait qu'elle serait femme. Elle mérite 6 foot, 6 figures, 6 pack. Et puis, si possible, s'il est un petit peu en vue, un peu connu, c'est d'autant mieux.
Mais parce que je le vaux bien, comme dit une publicité célèbre. Et... Non, mais je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que cette publicité, elle est génialissime. Bien sûr. Parce que, de ce que je comprends enfin pourquoi les publicitaires l'ont choisi. Parce que ça rencontre le désir profond de toute cette nouvelle génération féminine.
Une femme,
féminine.
Ça se mérite. Mmh. Nous souffrons par essence. Donc, nous avons droit à, en gros, un surcroît d'attention. Mmh. En échange, finalement, on se demande pas quoi. Et effectivement, quand on compare son partenaire réel... Alors, je ne dédouane pas les hommes de plein de mots. Hein.
Oui, nous ne sommes pas parfaits, je suis prêt à le reconnaître.
Loin de là. L'homme ayant pour défaut numéro un, de désinvestir très rapidement la relation dans laquelle il a investi. Il va déployer beaucoup d'efforts, beaucoup de capital... Pour conquérir.
C'est Clémenceau qui disait, dans une relation, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier.
Absolument. Alors, pour une fois, vous êtes un très bon citeur, mais là, j'en ai une meilleure que vous, je pense. C'est mon ami Grégoire Lacroix, le poète, qui dit la meilleure partie dans les enfants, c'est le making-of. Donc, quand on compare, quand on est enjoint par la presse, par la pub, par la dark romance, par les séries, à comparer son partenaire réel qui est généralement en pleine phase de désinvestissement, à un partenaire idéalisé qui aurait 1m85, plaquettes d'abdominaux et on va dire en France, alors Bérou avait dit qu'on était riche à 4 000 € par mois, mais c'était il y a longtemps, on va dire en France 150K à peu près. 150K français, c'est à peu près 300-350K américains en termes de niveau de vie.
Niveau de vie, oui, tout à fait.
En termes de taille de mètre carré disponible, en termes de qu'est-ce qu'on peut s'offrir, combien de fois on peut partir en vacances, 300-350K là-bas, 150 ici. Eh bien, comparé à cela, on a fait les calculs tournent sur Internet, on est sur quelque chose comme 0,03% des hommes.
Bah évidemment, parce que avoir des caractéristiques uniques réunies dans une seule et même unité, pas besoin d'être un grand ponte en statistique pour s'apercevoir que c'est compliqué.
Donc de là, vous comprenez que quand 100% ou quand 99% des femmes exigent 0,03% des hommes, il se passe quoi?
Un peu de déception peut-être?
Il se passe que, beaucoup sont malheureuses et... Se laissent aller à une pente de ce que j'appelle la douce schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a une vie laborieuse, répétitive, où on est subordonné à un environnement de travail, et puis on rentre et on s'invente une vie parallèle par, encore une
c'est
fois...
C'est du bovarisme, hein, ce n'est pas nouveau.
La dark... Vous savez qui a inspiré Madame Bovary?
Non.
Sa muse, Louise Collet.
Ah, je ne savais pas. Ah, merci.
Sa muse avec laquelle il n'était pas tendre, d'ailleurs. Hein, parce que maintenant, on a une image éthérée de la muse.
Oui, mais je pense qu'il suffit d'avoir lu Madame Bovary pour comprendre que Emma n'était pas très aimable.
Il n'était pas tendre avec elle. Il lui collait des furoncles, parce qu'il avait des furoncles, Flaubert. Et il collait des furoncles à toutes les femmes qu'il... Bref, donc effectivement,
donc déception,
tendance à la surimagination, à la comparaison, convoitise attisée par les réseaux sociaux où tout le monde se montre sous leur meilleur jour. On a d'innombrables témoignages d'arnaque avec les filtres, avec le poids, avec la taille, etc. Et les parangons de cette double bind, entre guillemets, ça va être Anne et Brad Pitt ou ce genre de cas, mais qui...
En un mot pour nos auditeurs, il y a une femme qui paraissait saine d'esprit et qui s'est laissée convaincre, on va dire ça comme cela, qu'elle était aimée de Brad Pitt. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas non plus totalement l'accabler, car je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, qui sont les fameux brouteurs que l'on connaît, qui ont fait du détournement d'amour, du détournement psychologique, comme dans une secte finalement, un métier... une industrie, et que donc lorsqu'on est la cible de quelqu'un, si quelqu'un veut absolument vous voler votre mobilette, il finira par y arriver, et c'est pas parce que vous aurez mis un cadenas. Donc là, il y a peut-être aussi à voir quelle est la force de la persuasion qui a été utilisée pour justement la faire tomber dans ce piège.
J'ai envie de vous répondre que la force de la persuasion s'est adressée de manière homogène un petit peu à tout le monde, puisque des tentatives d'hameçonnage, de phishing, de spamming, d'extorsion de données personnelles, on en est absolument tous victimes et on ne tombe pas tous dedans.
Oui, donc vous, oui, je comprends. Chacun devrait avoir un petit peu de recul sur ce qui lui arrive. Alors nous avons besoin de passer à un bobino très important pour la vie de notre chère radio.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous nous retrouvons au Libre Journal d'Uxérapion. Je suis très heureux de faire cette émission avec Stéphane Edouard. Donc Stéphane Edouard, vous pouvez le retrouver sur Internet, qui est tout à la fois un vidéaste, un essayiste, un sociologue. Et nous nous entretenons de la France et des Français, finalement, de nos relations aux autres, sans d'ailleurs oublier l'environnement dans lequel on est. Et il y a aujourd'hui quand même une affaire qui, je dirais heureusement, a fait l'actualité. Et on va voir combien tout ce que nous allons échanger à propos de cette affaire résonne par rapport à tout ce que nous avons pu déjà dire au cours de ce début d'émission. Alors cette affaire, c'est l'affaire Delphine Ernotte, France Télévisions, et Stéphane Edouard, je peux le dire comme ça, une affaire qui vous a en quelque sorte fasciné.
Effectivement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas penché aussi longtemps sur une affaire d'actualité. Alors, je suis, comme d'habitude, comme j'imagine la plupart d'entre vous et de vos auditeurs, l'actualité via Twitter et les autres réseaux. Et vous savez comment c'est désormais, notre temps d'attention à tous est en train de se rétracter. Alors, une chasse l'autre, mais il y en a une qui n'a pas chassé l'autre, c'est celle-ci. Et je suis d'autant plus, que ça m'a demandé d'autant plus de persuasion de m'y plonger, que je ne suis pas client de France Télévisions à la base et que la plupart des animateurs qui en ont été évincés, moi, je ne les regardais pas. Donc, je ne peux pas être soupçonné
d'intérêt ou
d'émotivité excessive ou quoi que ce soit. Je ne suis ni client... Enfin, il y en a 6 ou 7 qui ont été évincés au titre de la déclaration de guerre, du casus belli prononcé par leur directrice en 2014. Il y a trop de blancs hommes. Elle n'a pas dit mâle blanc, ça c'est une petite déformation que les guignols ont mis derrière. Elle a dit homme blanc de plus de 50 ans, et il faut faire du ménage là-dedans, il faut plus de diversité, plus de femmes, etc. Et au titre de ce casus belli, le paysage audiovisuel français, visible et invisible, a radicalement changé en 10 ans. Sous, croit-on, la férule du chef d'orchestre que serait Delphine Ernotte. Et en creusant, on se rend compte que Delphine Ernotte, toute directrice de France Télévisions qu'elle est, eh bien, elle était un peu pilotée et à la manœuvre. Et comme je le dis dans un petit documentaire que j'ai tourné et que je diffuserai prochainement, je dis, on la croyait maître d'ouvrage, elle n'était que maître d'œuvre. Et en haut, y avait des mâles blancs de plus de 50 ans. Et en bas, où va l'argent ? 386 millions, mais ils vont chez des mâles blancs de plus de 50 ans.
Alors Stéphane Edouard, est-ce que vous pouvez nous redérouler un petit peu le film, si j'ose dire, à la télévision ? Parce que, on a appris certaines choses avec la commission d'enquête du député, je crois que c'est Deloncle.
À l'oncle.
Non, mais Deloncle a été un homme politique, c'est pour ça que je confonds. Mais
nous sommes en 2026.
Oui. C'est donc plus Daladier. C'était une anecdote que m'avait raconté mon père à la campagne, où on était au début des années 50, et une vieille dame avait appris que ce n'était plus Daladier, pour montrer combien l'information.
Elle vivait, ouais.
Non, mais l'information. Enfin, on ne peut pas comprendre le temps d'avant, même avec de la culture, parce qu'on ne l'a pas vécu, je crois. C'était un autre monde. Bref. Donc je pense que c'est intéressant que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez, par exemple, ce discours, nous l'avons tous entendu. Pour moi, je l'ai perçu, mais je dois être très naïf, comme une forme de. À mi-chemin entre une provocation et de génuflexion par rapport à l'air du temps et à la doxa ambiante. Mais je n'imaginais pas que ce soit, comme disent là aussi les sociologues, une parole performative, c'est-à-dire qui allait trouver son incarnation dans une réalité objective, en gros, Justement, expliquez-nous en gros qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, il s'est passé que le projet a précédé de plusieurs années notre charmante Delphine Ernotte, dont je précise avant toute chose que, un, je n'ai aucune acrimonie contre elle, et que, deux, je ne la prends absolument pas pour une conne. C'est une centralienne, et moi, j'ai passé l'épreuve de centrale. Pas toutes les épreuves, parce que j'ai compris que je ne l'aurais pas, et j'ai gagné ces jours de révision supplémentaire pour l'épreuve que j'ai eue. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, à centrale, à l'épreuve de physique... en 1998, j'ai eu 1. D'accord ? Donc, Delphine Ernotte a des capacités d'abstraction, de mémoire, de conceptualisation largement supérieures aux miennes. Donc, à aucun instant, je ne la prends pour une conne. Je dis néanmoins que, et tout ce que je dis est plus que sourcé, puisqu'il y a maintenant un rapport, que Delphine Ernotte a fait sienne une devise donc, de l'homme blanc de 50 ans, qui n'est pas d'elle, qui date de 4 ans auparavant, et d'un rapport qui s'appelait le rapport Schwartz sur, c'est un petit peu le parallèle, vous connaissez sans doute les GOPE, les grandes orientations de politique européenne, que nos gouvernements déclinent comme si c'était leur vision, alors qu'elles sont quand même fortement influencées, de la même manière. Et le rapport Schwartz, qui décrivait l'environnement économique que devait être France Télévisions dans les années 2020, donc nous étions en 2010, et elle en a retenu, enfin, elle les a déclinés, mais deux particulièrement. Le premier étant la féminisation slash la diversité. Et on verra comment elle l'a appliqué. Et le second étant l'État devait un peu se désengager. Alors, pas financièrement, puisqu'il est actionnaire à 100%, mais se désengager en termes, ce qu'on appelle dans le privé, l'opérationnel. C'est-à-dire que l'État devait devenir un actionnaire qui se contentait en gros de se présenter au directoire, au board, à la fin de l'année et de juger du montant de ses participations. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Comment elle a décliné ça ? D'abord, pourquoi a-t-elle été choisie ? Il ne vous a pas échappé que c'est une femme.
Jusque-là, nous sommes d'accord.
C'est une femme, donc c'était dans l'air du temps, hein, et surtout, elle était opposée à un homme. Qui s'appelait Pascal Joseph. Vous allez me dire, à ce niveau de responsabilité, tous les profils doivent avoir des compétences...
Plus ou moins similaires, on peut l'imaginer, oui.
Quelle était, à votre avis, l'expérience en termes de médias de Delphine Ernotte en 2014 ?
Aucune idée.
Zéro. Aucune. Elle n'avait bossé que dans une boîte dans sa vie, c'était Orange, ex-France Télécom.
Alors, il y a un tropisme en France qui consiste à considérer que les hauts fonctionnaires... ont une sorte de fluide sacré qui leur permet d'aborder avec le même bonheur et le même succès tous les domaines d'activité, quels qu'ils soient. Et on voit bien que vous avez des énarques qui passent de la culture de pommes de terre à la construction automobile.
Pas énarque.
Pardon ?
Elle n'est pas énarque.
Non, non, mais je prends l'exemple des énarques parce que c'est le cas le plus emblématique, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu ça aussi le travers qu'on a en France. Donc, on part du principe que quand quelqu'un est bon quelque part, il peut aller dans n'importe quel domaine d'activité. Ça se discute.
Elle avait, en tout cas, en face d'elle...
Je suis un bon avocat de la défense.
Mais vous feriez un très bon avocat parce que vous avez une bonne écoute de la situation. On ne le voit pas, on n'est pas filmé, mais quand je parle, il prend des petites notes, il incline le visage. Donc, elle était opposée à un certain monsieur Joseph... qui nous a quittés depuis, en 2022, et qui, lui, avait 30 ans d'expérience de cadre supérieur dans l'audiovisuel et qui avait des directions de programme à la plupart des...
Pour considérer que c'est un atout, on est d'accord.
Bon. La rouerie de sa nomination est déjà, selon moi, mérite d'être éclairée. Le directeur précédent, celui qui a précédé, M. Filmin, avait été nommé en direct par Sarkozy. On en avait un petit peu... Bon, on est d'accord que ça ne concerne pas l'entièreté de la population, ce sont un petit peu des discussions de salon. Néanmoins, on voit que quand la droite nomme à la direction d'un groupe du service public quelqu'un, c'est pas dans la finesse. C'est-à-dire que c'est le décret du prince... Et il s'était un petit peu antagonisé une partie de ses troupes et de l'opinion à ce moment-là. Hollande, avec sa légendaire finesse et sa rondeur et sa manière, s'est dit, on ne peut pas, même si on a envie de mettre une femme, même si on a envie de mettre une jeune, entre guillemets, je ne peux pas la refaire à la Sarko. Donc, je vais nommer un directeur du CSA. Comme ça, on ne me verra pas venir.
Je nomme le nominateur.
Je nomme le nominateur, Monsieur Schrammeck.
Très malin.
Et je demande à Monsieur Schrammeck de composer son CSA d'une manière qui m'assure que ce sera la candidate que je souhaite qui sera élue. Et les sources, encore une fois, tout est sourcé, c'est Monsieur Schrammeck lui-même devant la commission Allon. Alors non, devant Allon, qu'il a dit que finalement, il n'avait pas reçu une demande explicite, qu'il avait reçu un petit peu d'influence. Mais devant une autre commission également sous serment, il avait avoué que Hollande lui avait réclamé. Donc ils ont fait élire Madame Ernott, donc femme jeune.
Ils ont fait nommer
Madame Ernott à une voix près, grâce à cette table rase de Monsieur Schrammeck. Et il y a un témoin de cette audition. Alors, les bandes de l'audition ont disparu.
Alors, figurez-vous qu'avant de rentrer en studio, j'en ai parlé à notre incomparable directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Richard De Cesse, qui m'a dit « Hugues, tu sais, en plus, les bandes de l'audition ont disparu.
Bon, » C'est donc... quand même fou.
Bon, c'est pas de chance.
Elles n'ont pas 100 ans, ces bandes. Hein. On parle quand même de 2014, c'est pas la préhistoire. Les bandes ont disparu.
Mais où est le gramophone?
Mais nous avons un témoin de cette audition, où ils étaient donc au troisième tour du vote, et qu'elle a remporté à une voix près. Nous avons un témoin, Monsieur Amar. Paul Amar était présentateur du JT de France 2, donc a priori les médias sont quand même un monde. Et il a témoigné sous serment qu'elle ne comprenait rien, je cite, et que sa compréhension du service, du fonctionnement de France Télévisions était nulle, et qu'elle ne savait même pas défendre son propre projet. Pourquoi l'a-t-on choisi ? Et moi, j'ai une théorie.
Allez-y.
On l'a choisi parce qu'on savait que ça allait être une boucherie derrière et qu'il fallait quelqu'un dont la principale compétence est de passer à travers les gouttes. Et elle avait démontré chez France Télécom une grande capacité de plasticité, de malléabilité, car elle avait évité toute procédure judiciaire à son encontre en dépit de 60 suicides. Il y a eu deux vagues de suicides chez France Télécom dans la décennie qui précédait, dans les 6 ou 7 ans qui précédaient, une vague de 35 premiers suicides, où elle n'était pas directrice générale de France Télécom, elle n'était que directrice commerciale. Donc c'est le directeur général de l'époque, Stéphane Richard, et un de ses cadres dirigeants, dont j'ai oublié le nom, qui ont été jugés et il me semble condamnés à cet égard. Donc elle est premièrement passée entre les gouttes au titre que je ne suis que directrice commerciale. Cependant, derrière ces 35, il y en a eu 25. Et là, elle était aux commandes. Et on ne sait comment. Autant quand c'est un homme aux commandes et qu'il y a 35 suicides, il est condamné. Quand c'est une femme aux commandes et qu'il y a 25 suicides, alors vous me direz, c'est 10 de moins, bon, enfin, c'est comme 25 suicides, pas l'ombre d'une condamnation. Et devinez le profil sociologique des suicidés. Homme, 50 ans. 24 sur 25. Et il n'y avait pas que des hommes chez France Télécom. Hein. C'était 60-40. Il y avait 60% d'hommes, 40% de femmes. 25 suicides, 24 hommes. Exactement le profil qu'elle entend chasser de l'antenne en arrivant.
Mais vous ne sous-entendez pas quand même que Mme Delphine Ernott poursuit de sa vindicte l'agent masculine ?
À moi, je ne sous-entends absolument rien. Je n'ai pas ce talent. Moi, je regarde, je parle, je raconte des chiffres et des données vérifiables. Donc, elle se sort blanche comme neige de cette séquence. Elle postule à la... Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de directrice générale ? Il y a PDG.
Oui, président-directeur général.
Et elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue et elle est mise gentiment à la porte. Et elle accepte France Télévisions avec une division par deux de son salaire. Et ça, il faut bien le garder en tête quand on raconte les anecdotes du Majestic à Cannes, des dépenses somptuaires. Pourquoi à quel moment arrive-t-elle ? Au moment, justement, où on a quelqu'un qui passe de 800 000 euros par an à 400 000 euros par an.
Oui, c'est un gros sacrifice.
Gros sacrifice, d'autant plus que 400 000 euros par an brut en France, ça fait moins de 200 net. Donc, avec la suite du Majestic à 30 000 euros la nuit, ça passe pas. Donc il y a toute une mécanique comme ça, où des anecdotes qui peuvent paraître disparates, éclatées, anecdotiques, etc., s'alignent et font sens quand on regarde les choses. Donc on a mis une femme, on lui a donné... On l'a fait élire dans des conditions d'une transparence et d'une démocratie parfaite où on n'a même plus les bandes, où le nominateur est nommé 6 mois avant avec consigne de la nommer. Bon. Et elle énonce, elle fait sienne la devise « d'évincer les hommes ». Elle en vire 6. Mmh. Cinq des remplaçants ne font pas une meilleure audience. Bon, pas de bol. Dans ses prémonitions, dans son engagement, elle visait également à rajeunir l'audience. L'audience est passée de 58 ans en 2014 à 64. Pas de bol. Donc ça fait ni plus d'audience, ni plus jeune. Par contre, ce qui est incontestable, c'est que la situation financière de France Télévisions est catastrophique. Et ça, c'est source Commission des Finances 2023 au 24.
Et Cour des Comptes.
Au Cour des Comptes, voilà. 81 millions d'euros de déficit cumulé, les capitaux propres qui passent de 300 à 180 millions d'euros, donc quasiment divisé par deux, et la dotation de l'État qui augmente, donc ça nous coûte à nous en impôts.
C'est moins bien, mais c'est plus cher.
136 millions de plus qu'il y a quelques années. Elle se défend en disant oui, mais c'est moins que l'inflation, parce que l'inflation est... Bon, bref. Et la Cour des comptes a même dit que d'ici fin 2026, si l'État ne remet pas la main à la poche, le groupe va s'effondrer. Alors vous avez, où est passé cet argent ?
Oui, Stéphane-Edouard, car il ne nous reste que quelques minutes, donc
le suspense est intolérable. Il est passé dans la poche d'hommes blancs de 50 ans, de sociétés de production privées. Alors, les noms parlent peu à vos auditeurs, parce que nous, on connaît les noms des émissions, on connaît C'est à vous, on connaît C'est pas sorcier, on connaît C'est politique, on connaît Taratata. Mais on ne sait pas que derrière, les sociétés s'appellent Together Media, Media One, Bunny J. Et les contrats de ces sociétés de production ont été multipliés. La plus petite augmentation, c'était 140%. Et l'une d'entre elles, KM Production, filiale de Bunny J, avec à sa tête une autre femme blanche de 50 ans du nom de Alvarez ou Alvirez, son budget annuel a été multiplié par 23 sous Delphine Ernotte. C'est-à-dire que la production de la télé à la papa, Question pour un champion, le cabaret de Patrick Sébastien, que je ne regardais pas, je ne suis pas un client, ce n'est pas mon humour, mais c'était fait à la papa, à la française, avec des marges de 10%. Tout ça a été capté et a été envoyé par paquet de 100 millions à officiellement 850 petits producteurs indépendants, mais dont, en fait, 90% du chiffre se résume à 5 d'entre eux. Bunny J, Media One, Together Media, dans lesquels œuvrent des gens comme Vivendi Bolloré, un groupe étranger, et quelques animateurs qui ont intelligemment mis leur bille, comme par exemple Nagui. Donc, il faut savoir que quelqu'un comme Nagui, par exemple, qui a plus de 50 ans, mais coup de bol, il est égyptien, donc ça va, il a échappé à la vindicte, touche non seulement comme animateur, bon, c'est 2500 euros l'émission, ça va. Comme producteur, mais vous allez me dire, bon, bah, s'il se produit, c'est normal qu'il se... Mais également comme actionnaire de la société de production qui prend 140 millions d'euros à France Télévisions tous les ans parce que Delphine Ernotte leur aura donné. Donc, il y a un transfert de capitaux sous ses mandats, on est à son troisième quand même, un transfert de capitaux totalement inédit d'un argent qui nous appartient, à défaut de nous revenir, sur lequel nous devrions avoir une vue sur son utilisation, et qui, en dernière instance, va dans les poches d'hommes blancs de 50 ans contre qui, finalement, elle n'a pas grand-chose. Mais comme c'est fait par une femme...
La vie est remplie de paradoxes, c'est ça.
C'est doux, c'est féminin, c'est mignon, c'est le progrès, vous comprenez ? Cette histoire, je la trouve formidablement riche d'enseignements.
Et je pense, Stéphane-Edouard, que l'histoire n'est pas finie. Permettez-moi simplement, en tant qu'observateur, et également qui comprend un petit peu la question des finances publiques, on est quand même sur une société qui est... Enfin, une structure juridique qui est financée majoritairement par la dépense publique et donc qui, selon moi, relève du code de la commande publique. Donc, la première des questions, et je suis étonné de ne pas avoir vu de sujet là-dessus, c'est que disent les procès-verbaux d'appel d'offres, tout simplement. Parce que l'avantage d'un appel d'offres de marché public, c'est qu'à un moment, les taux de profit s'égalisent vers le bas, puisqu'on veut quand même avoir un peu de profit plutôt que pas du tout. Et donc, de ce point de vue-là, le principe de l'appel d'offres de marché public en France est extrêmement sain pour optimiser la dépense publique. Donc, je serais très heureux, là, de façon très factuelle, revenons-en, et très rationnelle, de voir ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que personne ne l'a évoqué. Je ne sais pas si vous avez creusé ce point-là, mais je pense que... En plus, à mon avis... Par définition, un appel d'offres de marché public, il est public, c'est-à-dire qu'il est publié au BOAMP et au JOU. Donc, c'est le système officiel de publication pour la France et le journal officiel de la communauté européenne. Donc, je ne vois pas très bien ce qu'on ne pourrait pas vérifier et contrôler de tout cela. Donc, je pense que l'histoire est loin d'être terminée, c'est ce que je veux dire.
Alors, très probablement, moi, j'utilise l'engouement médiatique autour de cette histoire pour en parler, parce que, un, comme je vous l'ai dit, elle me semble symboliser le dévoiement de cette notion de progrès féminin et la manière dont elle n'est pas sacrifiée du tout, mais elle est mise en exergue d'une espèce de vertu ou de progrès pour, en douce, sous la table, capter des fonds. Après, effectivement, le détail du fonctionnement des appels
appels d'offres de marché public.
Je ne l'ai pas. Ce que je sais, par contre, et je vous quitterai peut-être sur cette anecdote, car je crois deviner que le
temps vous aurez un mot de conclusion, rassurez-vous.
C'est que elle avait un. Je vous ai dit tout à l'heure que quand c'est à gauche, c'est souple, c'est-à-dire qu'on pose un cadre qu'ensuite on corrompt. Voilà. En tout cas. C'est une idée que j'aimais, je n'affirme rien, une interprétation personnelle. Et bien, de la même manière, elle a été, nous avons des photos, des vidéos, elle a participé au déjeuner d'anniversaire d'un membre du board d'une de ces sociétés de production. Alors, laquelle est-ce ? Je ne vais pas diffamer personne, j'ai oublié, mais c'est dans le fameux rapport. Et c'était avant sa troisième nomination, et l'année même... Le budget alloué par France Télévisions à cette fameuse société de direction dont elle était à l'anniversaire, pile sur la séquence où les appels d'offres se décidaient, a été multiplié, je crois, par 4 ou 5. Coïncidence, sans doute. Une coïncidence. Alors vous allez me dire, c'est une... Non, ce qui est drôle, c'est qu'elle avait elle-même, à son arrivée à France Télévisions en 2014, contribué à la rédaction d'une charte où elle a signé « Je m'engage à ne jamais accepter d'invitation ou de quoi que ce soit pendant les moments de prise de décision stratégique ou d'appel d'offres ». Donc, c'est toujours ce combo progresso-fémino, démocratico-machin, bien pensant. On pose un cadre... On rédige ou on co-signe le nombre de chartes nécessaires à baisser la vigilance. Et puis, une fois que la vigilance est bien basse et que toutes les précautions réglementaires et juridiques sont en apparence, en façade, eh bien, par derrière, on siphonne la vache à lait. Et la vache à lait, c'est nous. Voilà. Mais au titre de la féminité...
Mais pour le bien.
C'est pour le bien, parce que maintenant, on a une femme. C'est beaucoup mieux qu'avant, on avait un homme.
Oui. Stéphane-Edouard, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Je pense que cela passionnera nos auditeurs. Je les invite à vous retrouver tout simplement en ligne, où ils pourront voir un petit peu l'ensemble du champ de votre réflexion et de votre production. J'espère que vous nous ferez l'amitié de revenir nous voir pour aborder... d'autres sujets, ou en tout cas peut-être ces mêmes sujets que nous n'avons fait finalement qu'effleurer, parce que ils sont vastes, ils sont importants, ils sont nombreux, et j'aimerais conclure en remerciant bien évidemment Claudia à la technique, et également pour nos auditeurs, j'espère que tout cela leur permettra de mieux penser leur vie pour arriver vers cette fameuse vie bonne, qui est quand même l'archétype de l'idéal européen depuis l'Antiquité. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 21 mai 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 20 juin, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.